William de Wijsder, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la stratégie de BNP Paribas Investment Partner. On va parler avec vous de marché, de perspectives sur ces marchés, avec quelques décisions un peu plus positives dans la zone euro, en tout cas du point de vue des investisseurs qui ont plutôt bien perçu ce qui a été dit par notamment le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi. De votre point de vue, est-ce que pour autant l'horizon de l'investisseur s'est éclairci?
Il s'est éclairci dans la mesure où on a évité le scénario catastrophe. Je dois dire que jusqu'à la mi-juillet, j'étais quand même assez inquiet face à l'évolution que ça prenait. Maintenant, on a évité ce scénario. Il n'empêche que le défi reste très important, notamment pour relancer la croissance. Mais ce qui est très important, c'est que cette spirale infernale, elle a été arrêtée maintenant. Ça veut dire que ça réduit également d'une manière significative l'incertitude qui, à terme, peut être un facteur favorable dans le développement économique par le biais des décisions des investisseurs, des ménages, des entreprises. Autre point qu'il ne faut pas sous-estimer, bien sûr, c'est que la condition de financement s'améliore quand même très nettement à la fois pour les États, mais également pour les entreprises. Et donc, c'est encore un facteur plutôt favorable.
Alors c'est vrai qu'on a eu récemment, notamment en France, des émissions obligataires pour certaines grandes entreprises, et on a vu avec quelle facilité, on va dire, elles trouvaient, et surtout au niveau des taux, ça leur a donné forcément l'envie de se refinancer dans cette période-là.
Tout à fait. Il y a au moins une certitude dans la vie, c'est que la Banque centrale européenne fera tout pour que l'inflation reste aux alentours de 2%. Ça, c'est une certitude. La deuxième certitude, c'est que l'environnement économique est tel que les taux courts resteront très bas et en dessous de l'inflation pendant un bon bout de temps encore. Donc du coup, en combinant les deux points, la certitude, c'est qu'on a des rendements réels qui sont négatifs, ce qui explique cette chasse pour le rendement et qui explique aussi l'allure à laquelle on a vu la compression des spreads depuis l'intervention de la BCE.
Ça veut dire, quand on pense aux États-Unis, finalement, qu'on a encore allongé cette durée de taux très bas, comme la Fed l'avait envisagé, et qu'on a aujourd'hui un horizon, on aura pratiquement, on pourrait dire, 8 années, ce qui paraît rare dans l'histoire.
Oui, tout à fait. En début d'année, la Réserve fédérale avait donc mis en perspective un premier resserrement quelque part aux alentours de 2013. Puis quelques mois plus tard, elle a donc corrigé le tir en disant que ce ne sera pas avant fin 2014. Maintenant, elle dit que ce sera au plus tôt quelque part mi-2015. Lorsqu'on tient compte aussi que l'amorce d'un cycle de resserrement, lorsque ça intervient, sera quand même très graduelle, parce que la Banque centrale voudra quand même éviter de provoquer un krach boursier. Donc ce sera très graduel. On est parti pour des taux officiels aux États-Unis qui resteront inférieurs à l'inflation américaine jusqu'à fin 2016. Et donc effectivement, on aura eu une période entre 2008 et 2016 avec des taux réels officiels négatifs, ce qui est quand même incroyable.
Alors, on aurait pu voir les investisseurs dans ces conditions se ruer, entre guillemets, sur les actifs un peu plus risqués comme les actions. Quand on regarde les volumes, si on prend sur la Bourse de Paris, ça n'a pas été, en termes de volume, hein, il n'y a pas eu un engouement pour ces actifs dits plus risqués très important.
Oui, ça interpelle énormément dans la mesure où on a un sentiment qu'il y a une sorte de dichotomie qui s'est créée au sein du marché d'actions entre d'un côté les investisseurs, je dirais institutionnels, qui peut-être auraient envie, mais malheureusement ne disposent pas du budget de risque d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue ratio bilanciel, etc. Et puis on a d'autres investisseurs qui ne sont pas contraints par ces considérations-là, mais qui simplement n'ont pas trop envie, n'osent pas, etc. Et donc du coup, on a quand même eu une hausse boursière très significative depuis la mi-juin, où relativement peu de gens ont participé. Ce qui nous pose la question, bien évidemment, quitte maintenant, est-ce que ceux qui ont, entre guillemets, raté le train, est-ce qu'ils vont essayer de se rattraper et quand même y aller? Ou est-ce qu'ils vont dire, bon, ben, écoutons, j'attends la prochaine correction. Sur ce plan-là, bon, à très court terme, je ne vois pas un grand catalyseur négatif, ce qui ne veut pas dire que tout baigne, mais quand même, je ne vois pas un grand catalyseur négatif. Et donc beaucoup dépendra du comportement du marché corporate, les obligations corporate. Ici, là, on assiste à une continuation de la compression des spreads, ben, inévitablement, les gens finiront quand même à regarder davantage les actions.
Du côté des entreprises, hein, justement, on sent que s'il y a quelques mois encore, elles n'étaient pas trop touchées par l'environnement macroéconomique, notamment en zone euro et autres, on les sent un peu plus prudentes. Hein. On se dit que les entreprises commencent à avoir du mal et puis on a des comparables qui commencent à être difficiles à tenir pour elles en termes de progression de résultats.
Tout à fait, et on le voit dans plusieurs pays. C'est d'ailleurs un facteur qui crée une certaine inquiétude dans le chef des investisseurs parce que les marges au départ sont toujours élevées, mais bon, quand les temps vont un peu plus difficiles que par le passé, donc il risque d'y avoir un effritement des marges aussi. Et je pense que c'est l'illustration du fait que le processus d'assainissement budgétaire qui est inévitable, qui est nécessaire, etc., accouplé à cet environnement de grande incertitude lié à la zone euro, finalement, ont donné lieu à une prudence de plus en plus importante, à la fois du côté ménage, du côté entreprise, mais également du côté partenaires commerciaux. N'oublions pas que l'essoufflement de la croissance en Chine est en bonne partie dû à la chute de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Donc tout se joint, disons, et crée un environnement qui devient difficile, mais où on n'a pas, à la grande différence avec 2008, 2008, il y avait une sorte d'implosion du cycle économique qui était soudaine. Ici, c'est beaucoup plus graduel. Et bien sûr, il faut espérer que le même gradualisme ne se manifestera pas lors de la reprise, parce que ça voulait dire qu'on est parti pour une longue période d'activité plutôt faible. Bon, maintenant, n'oublions pas qu'il y a ce concept de animal spirits, comme on a appris à l'école, et donc le facteur psychologique, il est important. Je pense qu'il y a la BCE, il y a la Réserve fédérale, et n'oublions pas que bon, les autorités chinoises prendront quand même des mesures pour arrêter l'essoufflement qui a lieu dans ce pays-là aussi.
Alors, du côté des investisseurs, on sentait bien au cours des derniers mois toujours de privilégier plutôt les marchés américains compte tenu de ce qui se passait dans la zone euro. Est-ce que ça a changé compte tenu peut-être des nouveaux risques ou des risques à venir aux États-Unis? On pense au fiscal cliff notamment et après les élections.
Oui, a priori, je dirais que ça a changé, et également l'argument des valorisations relatives, bien évidemment, mais je pense que lorsqu'on fait un peu le bilan, les défis européens, qu'est-ce qu'on a fait, les défis américains, qu'est-ce qu'on a fait, ben, jusqu'il y a peu, les marchés ne regardaient pas trop les défis américains parce qu'il y avait tellement d'éléments à se mettre sous la dent en analysant l'Europe que là, on avait tout le focus. Et également, donc, la méfiance. Je dirais que maintenant, on a pris ce virage et on est sur une meilleure voie, même si la voie reste quand même plutôt chahutée. Tandis qu'au niveau américain, maintenant, la grande question, c'est ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense que le fiscal cliff, c'est peut-être un peu moins un sujet qu'on ne l'imaginait il y a quelques semaines. C'est lié au fait que bon, il y a des négociations en cours, un peu où il n'y a pas le feu des médias, des journalistes, etc. Donc il y a des négociations en cours. Il n'empêche que c'est un pays avec une croissance qui est molle, avec une compression budgétaire qui interviendra, quoi qu'il arrive, et surtout aussi avec quand même une grande incertitude quant au modèle économique qui sera adopté une fois après les élections. Donc je dirais, sur une base relative, il y a effectivement l'Europe qui se positionne sous une meilleure lumière maintenant. Maintenant, il y a quand même un facteur important qui est ce qu'on en fait dans les médias, les journaux internationaux, etc., où là, on a toujours tendance à quand même fort critiquer l'approche européenne.
Donc, on verra peut-être en conclusion, du coup, les actifs que vous privilégiez, je dirais, pour les prochains mois dans ce contexte.
Je dirais que, bon, un, nous adoptons quand même une politique qui est caractérisée par la prudence, et ça, c'est lié au fait que pour que la hausse boursière, et donc j'insiste sur le mot boursière ici, puisse continuer, il faut vraiment avoir des indications qui a une amélioration du cycle économique en perspective. Et on n'en a pas là. On n'en a pas là. Donc, du coup, je pense que la préférence des investisseurs portera surtout sur les produits taux, les spreads, avec donc une tendance qui continuera de compression des écarts de rendement entre les corporates et aussi la dette émergente par rapport aux marchés occidentaux.
Merci William de
Avec
Vigder d'avoir
plaisir.
été avec nous aujourd'hui.
Plaisir.